21 avril 83, Rimou.
Nous devions essayer de comprendre ce passage du point de vue de l'inspiration au choix. Et toujours en voyant un peu le parallélisme du reste avec l'éthique, mais en même temps en distinguant bien ce qui est tout à fait particulier à l'activité artistique. Puisqu'au fond, c'est ça que nous cherchons, c'est d'essayer de voir comment l'activité artistique, qui est parallélisme à celle de l'éthique, mobilise en nous, fait une structure en nous toute différente. Tout commence par l'inspiration, ce type de connaissance symbolique. Il faut essayer là de plus en plus d'essayer de comprendre comment il y a là une source d'une connaissance qui commence par le point de vue du sujet. Donc c'est vraiment l'aspect, si vous voulez, que Kant avait très bien saisi. Il avait saisi du côté de la connaissance tout court, mais il y a quelque chose de juste à saisir du côté de cette subjectivité transcendantale de la connaissance. Et il faut tout le temps venir à l'inspiration si on veut saisir cette subjectivité transcendantale. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir si à partir de là, on pourrait récupérer les choses de Kant. Ce serait très intéressant. Est-ce qu'il y a un impératif catégorique en art? Vous voyez, ce serait une question intéressante avec le séminaire de l'autre jour, de comprendre un peu ce point de vue de Kant. Parce que c'est très vrai, on fait toujours la critique de Kant. On a raison de faire la critique de Kant. Mais aussi, il faut se dire qu'il y a une intuition. Et dans cette intuition, il y a peut-être quelque chose que nous devons essayer de retenir du côté de la philosophie de l'art. C'est sûrement du côté esthétique que Kant a été le plus loin. Et c'est là où il a saisi quelque chose d'intéressant au point de vue de l'imagination. Alors, l'inspiration nous donne un type de connaissance où la subjectivité est première. C'est à travers la subjectivité que l'objectivité est reprise. Mais voyez bien que c'est une objectivité qui provient de la subjectivité, c'est-à-dire qui provient de l'intelligence liée à l'imaginaire, dans le domaine des possibles. C'est un possible symbolique. Il y a un possible logique, il y a un possible symbolique, il y a un possible mathématique, il y a un possible métaphysique. C'est important d'essayer d'avoir la famille des possibles, n'est-ce pas ? Et de bien saisir la famille des possibles, c'est-à-dire des modalités des possibles. Le possible logique est tout à fait différent du possible symbolique. C'est pas du tout la même chose. Le possible symbolique porte en lui une espèce de vigueur, de force, d'élan qui demande la réalisation d'une œuvre. Et je crois que c'est le propre du symbole, ça, justement, de ce possible symbolique. Le possible logique, c'est l'être de raison. C'est l'universel, il ne demande pas du tout la réalisation. Il a une capacité d'attribution. Il est capable d'être attribué. Il provient des singuliers, il peut être attribué. Le possible mathématique, c'est encore autre chose. Le possible mathématique n'est pas le point de vue de l'attribution en premier lieu. C'est autre chose. C'est un autre type de possible. Et le possible métaphysique est tout entier relatif à l'acte. Alors, vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est un domaine difficile à préciser, le domaine du possible, hein. C'est un domaine très important. Alors, il faut découvrir ce premier possible génétiquement. Je crois que le premier possible génétiquement, c'est le possible symbolique. Possible symbolique, c'est celui qui naît d'inspiration. C'est celui dans lequel la subjectivité transcendantale est source de cette connaissance symbolique. L'espace qui plonge dans l'imaginaire et qui est une intelligence dans l'imaginaire. C'est pour ça que la connaissance symbolique est toujours reliée au sensible, hein, faut pas l'oublier. Et la subjectivité transcendantale est liée au sensible. Parce que l'imaginaire, c'est le sensible. C'est un domaine du sensible. C'est dans ce domaine du sensible que l'aspect du sujet premier... Vous vous souvenez, nous avons essayé de comprendre ce que c'est que l'imaginaire. Nous avons vu que dans l'imaginaire, l'aspect subjectif est premier. L'imaginaire est toujours entre les deux, entre la sensation, mais l'aspect de synthèse dans l'imaginaire est subjectif. C'est le vivant qui se meut dans l'imaginaire. C'est le vivant qui se meut dans l'ordre de la représentation, dans l'ordre de la connaissance. Et nous sommes ici en présence donc, de l'imaginaire intellectualisé, repris par l'intelligence, donc imprégné d'intelligence, qui nous permet d'avoir une connaissance symbolique. Et cette connaissance symbolique demeure impossible. Alors c'est ça qui me semble important à souligner, c'est que cette connaissance symbolique, qu'on a essayé de regarder un peu, est ordonnée à la réalisation. Alors, comment un possible est-il ordonné à la réalisation ? Le possible en lui-même, pris en lui-même au point de vue purement du possible, n'est pas la réalisation. Tandis que là, il y a un poids vers la réalisation. La connaissance symbolique demande de se réaliser dans une œuvre. Et l'œuvre elle-même sera symbolique, hein, forcément. La continuité, une œuvre artistique est une œuvre symbolique. L'intelligence d'une œuvre symbolique. C'est toujours symbolique. L'intelligence d'une œuvre artistique est symbolique. Et elle est symbolique et il faut remonter la source. Alors on est en face de la cause exemplaire. Pour comprendre la cause exemplaire, il faut en venir à l'idéal. Cette idée qui est symbolique et qui est possédée comme le fruit d'inspiration, qui est le fruit d'inspiration et qui nous oriente vers la réalisation. Vous voyez, c'est ça qu'il me semble que Maritain n'a pas saisi. Pour ceux qui étudient Maritain au point de vue de la connaissance artistique, c'est intéressant à saisir ça, parce qu'il ramène cette connaissance symbolique à l'intuition poétique. Maritain était tellement marqué par l'intuition, c'est qu'il revient tout le temps. Vous voyez ? Alors, que l'inspiration implique une connaissance intuitive, c'est très vrai. Elle implique une connaissance intuitive, mais ce n'est pas une connaissance intuitive coupée de la réalisation. Pour Maritain, l'intuition poétique est coupée de la réalisation. Elle est séparée de la réalisation. Je crois qu'il y a une continuité, par le point de vue symbolique, entre ce qu'on possède au niveau possible et au niveau de la réalisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce passage. Parce que là, on verrait peut-être hein, quelque chose d'analogue à l'impératif catégorique. Il y a quelque chose qui oblige le savant, qui oblige l'artiste. Quand vous demandez à un artiste pourquoi il a réalisé telle chose, il ne vous donne jamais d'explication. Il vous dit, j'ai été forcé. J'ai été forcé, voici autrement. Ça l'agace de lui, quand on demande des explications. J'ai été forcé, voilà, qu'à regarder. Comme si la nécessité, parce qu'il y a une nécessité qui est formée. C'est la naissance de la nécessité. Alors l'impératif catégoriste n'est-il pas la naissance de la nécessité ? L'autre jour au séminaire, je me suis demandé s'il n'y avait pas là quelque chose d'intéressant à voir du côté, parce qu'on repensait Kant, alors repenser Kant du côté artistique. Pour voir le côté positif qu'il y a. Mais comme il y a la subjectivité transcendantale, qui est quelque chose de positif du côté de la connaissance symbolique, on ne peut pas nier que du côté de la connaissance symbolique, c'est intéressant de voir cela. Parce que la connaissance artistique, elle est première dans son domaine. Or, est-ce que du côté de l'impératif catégorique, est-ce qu'on n'a pas quelque chose ? On va essayer de voir. Hein. C'est une hypothèse de recherche. Intéressant pour mieux connaître la critique de Kant et mieux connaître la différence entre le facere et l'agere. Bon. Je pose l'hypothèse, hein, l'hypothèse de recherche, que nous allons essayer de voir ensemble. Ce qui est sûr, c'est que le choix créateur, qui vient directement après l'inspiration, le choix créateur, nous, l'inspiration de l'artiste. Et nous, autour de l'idéal. C'est l'idéal que je choisis. L'idéal, c'est-à-dire le j'ai ce que je dois faire, ce que je veux faire. Ça revient au même. Ce que je dois faire et ce que je veux faire. Pour l'artiste, c'est la même chose. Tant qu'il n'est pas obligé par l'intérieur de faire quelque chose, il ne le fait pas. Il attend une grâce. Autrement, il ne peut pas. L'artiste, un véritable artiste, ne réalisera jamais rien tant qu'il est dans l'hésitation du possible. Il commencera à réaliser quelque chose quand il y aura quelque chose d'impératif qui se donnera à lui, ce quelque chose d'impératif qui sera comme une nécessité interne. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de ce qu'il porte, donc du possible. Le possible va tout d'un coup devenir nécessaire. L'inspiration, c'est Valérie qui dit ça avec beaucoup de force. L'inspiration est toujours multiple. Une inspiration peut impliquer de multiples résultats. Donc, il y a dans le possible de l'inspiration, dans ce possible symbolique, il y a de multiples facettes. Valérie dit qu'il a toujours rêvé de voir réaliser une œuvre au niveau de l'inspiration. C'est très très amusant comme rêve, hein, de pouvoir rester une œuvre qui aurait une multiple facette. Ah, vous voyez ça? Très bien, on va vous montrer autre chose. Ah tiens, voilà, parce que dans l'inspiration, il y a ça. Il y a quelque chose de multiple au point de départ de l'inspiration comme source. Je suis dans le possible. Soudainement, le possible devient nécessaire. Le possible s'impose. C'est quelque chose qui s'impose à l'artiste. C'est là où il y a un choix créateur. À l'intérieur du possible, il y a quelque chose qui s'impose. Ce quelque chose qui s'impose, s'impose nécessairement. Donc, c'est pour ça que je dis choix créateur, dans lequel, de fait, il n'y a pas de liberté. Ou, si vous voulez, c'est une liberté qui vient de quelque chose qui s'impose. Ce n'est pas du tout la liberté de choix, comme on dira au point de vue moral. Ce n'est pas ça du tout. On est libre, parce que l'artiste suit son inspiration. C'est vrai, il suit son inspiration. Alors, à l'intérieur de l'inspiration, quelque chose s'impose. Quelque chose s'impose nécessairement. Je ne peux pas faire autrement. Si vous me demandez de faire autre chose, non, je ne peux pas. Je ne peux pas avancer dans cette ligne-là. C'est la seule chose que je peux vraiment saisir. Donc, une nécessité qui s'impose. Alors, à ce moment-là, l'idéal devient quelque chose qui va être la norme. La norme de toute mon activité. C'est à partir de là que je peux travailler. Tant que je n'ai pas ce choix créateur, non, je peux bricoler, mais je ne travaille pas. Vous voyez ? On peut bricoler, on peut disposer les choses. Mais ce n'est pas le travail. Quand on écrit quelque chose, on a tous fait cette petite expérience, n'est-ce pas, quand on écrit, qu'on veut écrire un article, alors on bricole. On se dit ça, on peut te dire autre chose. Et les dissertations que vous avez faites au point de vue rhétorique, les dissertations, oui, on fait ça. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Ah, ça y est. C'est curieux, ça y est. D'où ça vient ? Ce passage du possible au nécessaire. Alors, c'est vraiment quelque chose comme l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est quelque chose qui s'impose d'une manière telle que je ne peux pas faire autrement. Alors, évidemment, l'impératif catégorique, on verra, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est ça que tu dois faire ça, c'est ton devoir de faire ça. Parce que comme ça, tu es fidèle à ta conscience. Et tu es fidèle à ta conscience en remontant, et tu seras fidèle à la voix intérieure, et tu seras fidèle donc à la volonté de Dieu, en dernier lieu. Ici, c'est quelque chose qui est différent chez l'artiste. Mais il y a quelque chose de cette nécessité qui s'impose. Cette nécessité, à partir du possible, se fait sans conseil. Il n'y a pas la phase du conseil. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose comme l'impératif catégorique. Et qui vient comme de l'intérieur. Et qui vient s'imposer. où on est dans l'ordre du possible, et puis tout d'un coup ça s'impose. C'est une détermination intègre qui s'impose d'une façon absolue. Il n'y a pas de conseil. L'artiste sera, quand quelqu'un viendra lui donner un conseil, il le renverra promener. Parce que le conseil vient de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que vient la nécessité. C'est de l'intérieur que vient la nécessité. Il faut qu'il la découvre lui-même et seul. Il faut qu'elle s'impose. Alors c'est tous les caractères d'impératif catégorique. C'est très curieux. Il y a peut-être là quelque chose d'intéressant à voir et à préciser pour essayer de comprendre comment, de fait, on est bien dans cette ligne d'une connaissance symbolique. D'une connaissance symbolique qui s'impose à moi. Et qui s'impose à moi à partir même de l'inspiration que j'ai. Je suis source de cela. Alors les artistes, vous savez bien, les artistes quelquefois disent à ces muses, on rejette ça, il y a un petit caractère sacré. L'impératif catégorique a un petit caractère sacré. Alors on dit les muses, c'est quelque chose qui vient, ça vient du ciel, qui était inspiré. Et facilement on qualifie ça. Et facilement on qualifiera ça de dire oui, contact avec le divin, contact avec des puissances externes, ou au contraire démoniaques. Hein. On passe facilement du divin au démoniaque. Hein. Ce sont deux contraires dans le même genre. Au niveau inspiration. Hein. Au niveau inspiration, c'est deux contraires dans le même genre. Parce que ce n'est pas le divin surnaturel. C'est quelque chose qui s'impose à moi. Alors qu'il soit du bon côté ou du mauvais côté, c'est quelque chose qui s'impose. Je ne peux pas faire autrement. Ils diront toujours ça, les possédés. Je ne peux pas faire autrement. C'est quelque chose qui s'impose à moi. Ça s'impose à vous. Est-ce que vous êtes libéré, libre ou pas? Ah, j'en sais rien. Ça s'impose. La liberté, la volonté disparaît. C'est du même ordre. C'est très curieux. C'est pour ça que je me demande si du côté artistique, on n'a pas beaucoup étudié ce passage. Ça, on n'a pas étudié beaucoup philosophiquement. Valéry le touche, mais ce n'est pas un philosophe. Hein. Alors, il demande simplement ça. Et Aristote ne l'a pas touché, parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse au point de vue de la connaissance artistique. Il montre bien que le développement de la connaissance artistique est autre chose que le développement du fait tiré. Alors, on va essayer de voir. Pas de conseil, comment ce possible peut-il venir du nécessaire? Toujours intéressant. Comment du possible je peux découvrir le nécessaire? Autrement dit, comment du multiple je passe à l'autre? C'est pas de l'un comment le multiple naît, c'est comment du multiple on découvre l'un. C'est juste un vers de Plotin. Parce que c'est vrai, les possibles sont multiples. Ça, toujours. De l'inspiration, je peux réaliser pas mal de choses. D'une même inspiration. Comment se fait-il qu'il y a une nécessité, et dès qu'il y a une nécessité, il n'y a plus qu'un qui apparaît. Tout le reste est vaincu. Il n'y a rien qui est mis en lumière. Alors, c'est bien le passage du multiple à l'un. À l'un qui s'impose avec nécessité. Alors, comment comprendre ça? Puisque ça se fait de l'intérieur. Ça se fait pas d'extérieur, pas le conseil. S'il y avait le conseil, je dirais tout le conseil. Peut être influencé. Oui, peut être influencé, c'est sûr. Mais ça s'impose. Le choix créateur s'impose. Le choix de l'idéal s'impose de l'intérieur. Alors, je crois que c'est important parce que ça va nous aider à comprendre ce possible. Hein. Ce possible symbolique. Ce possible tendu vers la nécessité. Tendu vers la réalisation. Vous voyez que pour essayer de comprendre la réalisation, il faut passer par là. Tant que le possible reste possible et multiple, et l'heure est nécessairement une. Ça, elle est singulière. Donc, elle est une. C'est son unité. Pour pouvoir comprendre ce passage du possible, et c'est ça, je crois que Marita n'a pas vu, pour comprendre le passage du possible à l'œuvre, il faut la nécessité. Si vous ne voyez pas la nécessité, vous ne verrez jamais le passage entre les deux. Donc, la nécessité est le métaxu intermédiaire, le métaxu entre le possible et l'œuvre. C'est quelque chose qui va s'imposer. Vous voyez, l'analogue a une espèce d'induction. C'est quand même une espèce d'induction. Mais une induction extraordinairement rapide. Hein. Parce que je passe du multiple que je porte en moi. Ce n'est pas le multiple de l'expérience, c'est le multiple du possible. Je porte en moi cela et tout d'un coup, il y a un déclic. Et je saisis, je suis en présence d'une idée qui s'impose à moi. Et qui est une, celle-là, elle est une, elle est impérative. C'est celle-là du moment, et elle devient la norme de mon action. Et alors, elle se retrouve dans l'œuvre, forcément. Et l'unité d'œuvre devient de là. S'il n'y a pas, justement, ce caractère de nécessité, il n'y aura jamais l'unité d'œuvre. La critique qu'on fait, en disant, il manque d'unité cette œuvre artistique, c'est la première critique qu'on fait dans toute œuvre d'art. Ah oui, il y a des idées, c'est beau, c'est intéressant, mais il manque d'unité. On ne voit pas très bien l'unité. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est discontinu, c'est quelque chose qui ne va pas. Quand on fait ça, ce reproche-là, à la manière de Boileau, hein, quand on fait ce reproche de manque d'unité, qui est déjà chez Aristote, hein, Aristote dit que c'est le plus grand manque, c'est le manque d'unité. Et on comprend pourquoi, parce que pour lui, il faut justement que l'œuvre d'art soit belle. Et pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle plaise à la connaissance. Et quand la connaissance n'arrive pas à faire la synthèse, ça déplaît. Et donc il faut qu'il y ait cette unité qui plaise à l'intelligence. Quand on a saisi, vous voyez, une vision d'une très grande diversité, qu'on a saisi l'unité, il y a quelque chose d'agréable, quelque chose qui nous plaît. Ah, j'ai saisi la clé, je vois très bien, la clé de voûte. Qui permet de toutes les nervures deviennent intelligentes parce qu'on les saisit de l'intérieur. Et au fond, c'est ça qui plaît dans l'œuvre d'art. C'est qu'on retrouve cette unité dans cette diversité. Et cette unité qui est découverte tout d'un coup. Cette unité, elle provient de cette nécessité. Et quand il n'y a pas de nécessité, alors l'œuvre d'art est flottante. On a réalisé, on aurait pu réaliser autrement. Et l'œuvre d'art est flottante. Tandis que l'œuvre d'art a la précision quand il y a cette nécessité. C'est pour ça que c'est le nœud, là. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire, vous voyez, que c'est analogue, dans l'ordre de la connaissance pratique, à une sorte d'induction. Il y a une espèce d'induction, la nécessité. Pourquoi en esprit induit-il? C'est parce qu'en face de la multiplicité ordonnée, en face de cette multiplicité, on veut saisir le principe. Et le principe, c'est toujours un principe d'unité. C'est toujours ce qui ramène la diversité. L'intelligence saisit l'universel. Elle, à travers la multiplicité, saisit l'universel. C'est une manière d'unifier. C'est très curieux ce besoin d'unité de l'intelligence. Hein. Et ce besoin d'unité ici, impératif pour réaliser l'œuvre. Alors, essayons. Le possible. Le possible au niveau inspiration. Ce possible. Il est multiple. Il est multiple. Il est multiple par rapport à la réalisation. Parce que à partir de lui, peut se réaliser plusieurs choses. Comment le possible peut-il devenir nécessaire?
Vous voyez, alors, un peu la métaphysique, on va essayer d'être en puissance au niveau de la physique artistique. L'être en main.
La nécessité, c'est l'être en acte. Vous savez, Aristote ramène toujours la nécessité à l'être en acte. Il n'y a pas de nécessité en dehors de l'acte. Quand vous êtes en face du possible, vous êtes en face de tout ce qui va être source de contingence et de multiplicité. Tandis qu'au contraire, l'être en acte, il est nécessaire. Alors, ce passage, normalement, le passage de l'être en puissance et de l'être en acte, il se fait toujours par quelque chose d'extérieur. Le conseil. C'est vrai, au point de vue moral, c'est comme ça. Je demande conseil, je ne vois pas, je demande conseil. Puis on me donne une bonne idée et ça me détermine. Et alors à ce moment-là, je suis déterminé. Et donc ça vient de l'extérieur, parce que l'être en puissance... L'être en puissance ne peut pas par lui-même s'actuer. Le possible métaphysique ne peut pas passer à l'existence par lui-même. Ce qui est très curieux, c'est que le possible artistique passe à l'acte par lui-même. C'est un fait. Je suis bien obligé de le reconnaître. L'être en puissance, hein, au niveau passe proprement d'inspiration. Par lui-même va passer en acte. Sans l'intervention d'autre chose, puisqu'il n'y a pas de conseil. Donc je suis en face de quelque chose qui, au point de vue métaphysique, est complètement contradictoire. Puisque, de fait, l'être en puissance ne passe en acte que sous l'influence de l'agent. Ah, attention. Je suis en face d'un vivant. Le c'est mauvais. C'est vrai. Je suis en face d'un vivant. L'activité artistique, c'est un des aspects de la vie spirituelle. C'est la vie spirituelle. C'est le vivant spirituel qui est capable d'être inspiré et d'être lié. Alors, si c'est le c'est mauvais, on comprend alors comment, de l'intérieur, l'être possible, vital, c'est un germe, va pouvoir s'actuer et passer de ce germe. Pourquoi sont-ils multiples? Pourquoi sont-ils multiples? C'est comme dans toute fécondation, c'est très curieux. Les germes sont multiples. Il y a beaucoup de possibilités. Des possibilités extraordinaires. Puis il y en a un qui se réalise. Alors évidemment, dans la fécondation, on sait très bien que c'est la rencontre d'autres choses, hein, qui fait que tous les germes possibles, il y en a un qui se réalise. Il y a quelque chose d'analogue dans l'ordre des possibles. Dans l'ordre des possibles de l'inspiration, puisque ces possibles sont des germes en vue d'une œuvre, en vue d'une œuvre, en vue de réaliser quelque chose. Mais pour pouvoir réaliser quelque chose, il faut que ce possible s'actue. Et ici, il n'y a pas intervention d'autre chose, puisque l'artiste est lui-même source de son inspiration, source de son choix. Entre deux, c'est ce que Rilke dit, il faut une phase de recueillement et d'intériorité. Celui qui a une très grande richesse d'inspiration, s'il n'a pas suffisamment de recueillement, il ne réalisera jamais rien. Alors, vous voyez cette chose curieuse, c'est qu'on a quelque chose d'analogue, c'est pour ça qu'il faut passer toujours du domaine du facere à l'agir. On a quelque chose d'analogue au premier amour qui peut devenir une velléité. Qu'est-ce qui permet au premier amour de devenir une intention de vie sans tomber dans la velléité? C'est justement de ne pas se laisser prendre par l'imaginaire. Dans l'inspiration, il y a un imaginaire prodigieux, mais un imaginaire qui n'est pas un imaginaire, qui est du possible symbolique. Et le possible symbolique est ordonné à la réalisation. Ce possible symbolique ordonné à la réalisation peut très bien perdre son ordre vers l'inspiration, vers la réalisation, par l'imaginaire. Et je crois que le romantisme est un peu ça, vous savez, c'est un peu une maladie le romantisme. Moi je trouve, du moins. C'est un peu une maladie, le romantisme. Je sais bien qu'on considère qu'il y a un art romantique dans les... Mais c'est un peu maladif. Hein. C'est un peu l'imaginaire qui l'emporte. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est le possible pris par l'imaginaire, puis tout d'un coup, c'est pas très bien. Très bien, c'est tout d'un coup, ça se réalise. C'est la vache, avec le bout de sa queue, on a mis un pinceau, puis ça se réalise. Tout à fait, cette chose, le hasard qui a fait ça. Le hasard qui a fait que cet imaginaire très très grand réalise quelque chose. C'est l'inverse de l'art, c'est la caricature de l'art. C'est juste l'inverse de l'art. Tandis qu'au contraire, quand Rilke dit, il faut, quand on est inspiré, le recueillement. Pour arriver à une densité telle que tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient nécessaire.
Mais vous retrouvez, c'est important, vous retrouvez quelque chose d'analogue avec le point de vue de l'agir, avec le point de vue de l'activité morale. C'est que pour passer de l'amour à l'intention de vie, il y a un recueillement d'amour. C'est un recueillement d'amour qu'il faut intensifier son amour pour que l'amour qu'on a ne soit pas uniquement un amour passionnel. Pour qu'il devienne un amour de vie, donc un amour volontaire. Quelque chose de grand. Alors il y a une intensification d'amour. Ici, ce n'est pas une intensification d'amour, c'est une intensification de l'intelligence. Je crois. C'est ce qui fait comprendre l'art classique, ce qu'on appelle l'art classique. C'est-à-dire un art qui est parfaitement dominé. Un art où il n'y a rien, rien qui reste à côté. Alors c'est l'intelligence qui arrive à dominer tous ces possibles qui sont encore très forts dans l'imaginaire, qui sont tous ces germes qui demandent de s'orienter diversement et qui sont symboliques. Ça symbolise donc une orientation vers quelque chose à réaliser. S'il faut l'intensification de l'intelligence, mais pas de l'intelligence spéculative, hein. Ce serait très faux. Ça ferait tout perdre, l'intelligence spéculative. Il faut une intériorité à l'intérieur de l'intelligence pratique, de l'intelligence artistique. Donc il faut cette réflexion sur les possibles qui par eux-mêmes, parce qu'ils expriment la vie de l'intelligence, par eux-mêmes sont capables de se déterminer. Donc c'est une détermination immanente qui se fait à l'intérieur de l'intelligence pratique. Ça se fait à l'intérieur de l'intelligence pratique. Et ça se fait grâce à une espèce d'attitude réflexive sur le point de vue des possibles symboliques. Une réflexion intense qui provient de l'œuvre qu'on doit réaliser. C'est cette intention de l'œuvre qu'on doit réaliser. Donc, c'est cette intention que j'ai de réaliser cette œuvre. Si je n'ai aucune intention de réaliser l'œuvre, jamais le possible ne deviendra nécessaire. Je crois que c'est ça qui fait le passage entre les deux, oui, qui fait l'actuation, qui permet, au milieu de tous ces possibles, de réaliser quelque chose. Alors, voyez, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, et c'est quand même quelque chose d'extérieur. C'est ça qui est très curieux. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas un autre, ce n'est pas le conseil. Mais c'est quelque chose d'extérieur en ce sens que j'ai l'intention, il y a quand même l'œuvre que je cherche, que je porte. Je cherche à réaliser cette œuvre. Et cette œuvre, soudainement, va de fait permettre d'actuer cette œuvre que je porte, cette intention vers l'œuvre. L'œuvre comme telle, c'est le but. Donc, c'est l'analogue à la fin. C'est bien la fin et l'amour que j'ai du bien qui va me permettre de passer à l'intention. Puisque le bien va se transformer en fin à ce moment-là. Et c'est cet amour profond que j'ai du bien qui va me permettre de faire que cette œuvre va devenir, que le bien va devenir une fin. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose d'analogue ici. C'est différent. C'est différent puisque l'œuvre n'existe pas encore. Elle n'existe que dans mon intention. Mais je peux, puisqu'elle existe dans mon intention et elle existe dans mon inspiration. Mon inspiration est ordonnée à cela. À travers tous mes possibles. À travers tous mes possibles, ils sont nombreux. Comme je pourrais réaliser ça de diverses manières à travers ces possibles. C'est cette intention de l'œuvre que je cherche qui va permettre aux possibles multiples de prendre toute sa force, toute sa nécessité dans cette espèce de recueillement qui se fait. Oui, ce qui me sait mauvais. Alors d'où ça provient ça?
je crois, c'est l'intellect actif. On parle beaucoup du rôle de l'intellect actif du côté de l'intelligence spéculative, on n'en parle jamais du côté méthode pratique et du côté artistique. Or, de fait, un artiste, c'est un être intelligent et en acte d'intelligence. C'est un être qui, par son point de vue, sa subjectivité transcendantale, est tout entier celui qui domine. Il domine par son intellect actif. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici un rôle tout à fait différent de l'intellect actif par rapport à l'intellect spéculatif? Dans l'intellect spéculatif, l'intellect actif est source d'abstraction. L'intellect pratique, l'intellect actif ici, est source non pas d'abstraction, mais de concentration, d'actuation, du passage du possible au nécessaire. C'est de l'intérieur que ça se fait, et c'est l'intelligence qui le fait. C'est pas l'imaginaire, c'est l'intelligence. L'intelligence qui est comme actuée davantage par l'amour de l'œuvre. Il y a une recrudescence de l'amour de l'œuvre pour arriver à cela. Donc, une application. Je veux réaliser cela. Je veux réaliser, vous voyez, je suis tendu vers cela par un amour de l'œuvre. S'il n'y a pas cet amour de l'œuvre, il n'y aura pas ça. Je serai dilettante. Alors je me laisserai aller. J'aurai des inspirations. Ce qu'on voit, on a tous connu des artistes et de jeunes artistes qui avaient des inspirations étonnantes. Parce que c'est surtout quand on est jeune qu'on a des inspirations. Quand on commence à vieillir, on en a moins. N'est-ce pas? Parce que ça sclérose. Mais en fond, quand on est jeune, on a des inspirations étonnantes dans l'ordre de l'art. Dans l'ordre spéculatif, c'est différent, il n'y a pas d'âge. Alors. C'est l'avantage. Mais du côté, c'est pour ça qu'on opte du côté spéculatif, parce que comme ça, on ne vieillit jamais. Vous voyez? Tandis que du côté artistique, on vieillit. Ça, c'est sûr. Du côté artistique, il y a deux domaines où on ne vieillit pas. Le domaine affectif et le domaine spéculatif. Mais le domaine artistique, on vieillit. Et dans le même mathématique aussi. À cause de l'imagination. Tandis que dans le domaine proprement spéculatif, on ne vieillit pas. Et dans le domaine, il n'y a pas d'âge. Parce que l'intelligence est au contraire, plus on avance, plus l'intelligence est en acte. Et alors, elle a cette facilité beaucoup plus grande d'abstraire. Alors qu'au début, quand on est très passionné, comme dit Aristote, les jeunes ont beaucoup de peine d'abstraire. Ils sont trop passionnés. Mais ils ont une peine énorme de prendre du recul. On comprend très bien ça. Alors, il me semble que l'intellect actif, la subjectivité transcendantale, c'est bien l'intellect actif. L'intellect actif a donc ce « c'est me verrer » d'une intelligence qui est déterminée par une connaissance symbolique et qui veut réaliser quelque chose, qui est tendue vers cette réalisation. L'amour de l'œuvre va mettre comme un nouveau excitant, si j'ose dire, ou un nouveau recueillement pour permettre cette détermination du possible nécessaire. Il faut essayer de l'expliquer. Je ne vois pas d'autre explication. Il faut essayer de l'expliquer. On est devant des faits. Des faits qui sont indubitables, au fond, dès qu'on est en contact avec un artiste ou simplement sa propre petite expérience dans ce domaine-là, fait qu'on est devant des faits. Il faut les expliquer d'où ça vient. On a besoin d'un recueillement. Laissez-moi réfléchir un peu. Laissez-moi me recueillir un peu. Laissez-moi avoir une intensité. Quand je dis ça, ça veut dire une intensité de vie plus grande, au point de vue intellectuel. Quand vous voulez vous recueillir, c'est que vous voulez quand même avoir une intensité plus grande. Quand vous êtes pris par l'activité trop grande, vous ne réfléchissez plus. De temps en temps, ça peut se faire, mais au fond, ordinairement, on a besoin de se laisser toute l'actualité de son intelligence prendre ses possibles, j'allais dire en main, et les regarder par rapport à la réalisation pour, alors, une concentration plus grande qui va permettre le passage du possible au nécessaire. Et ce passage du possible au nécessaire va donc se faire par l'intellect actif, qui va, de fait, à l'intérieur de ses possibles, prendre, mais j'allais presque dire instinctivement, C'est instinctivement, c'est comme exactement comme l'induction, ça se fait instinctivement, ça se fait naturellement. Quelqu'un qui induit bien, induit tout de suite. Et il y a quelque chose de très net là, quelque chose de très précis qui fait ce passage entre les deux. Ce passage peut être gêné par l'imaginaire. Dès qu'on est fatigué, notre intelligence est moins actuelle. Non, ça c'est le propre. Parce que notre intelligence est moins actuelle. Et donc l'imaginaire est plus grand. Et donc on aura moins cette espèce de recueillement très fort du passage du multiple au nécessaire. Ça c'est un fait aussi qu'on doit expliquer, qu'on doit comprendre. Quand vous êtes fatigué, vous arrivez très difficilement à réaliser ce que vous voulez faire. Quand vous êtes au contraire pleinement éveillé, vous le réalisez pleinement. Et vous pouvez le réaliser comme une œuvre d'art, vous le réalisez. Parce que l'intellect actif est là présent. Et alors, actue de l'intérieur le possible. Actue de l'intérieur votre connaissance symbolique. La connaissance symbolique est donc bien le fruit de l'aspect de la subjectivité transcendantale de l'intelligence. Doublement, j'allais dire. Du côté de l'inspiration et du côté du choix. Et c'est à l'intérieur de cette inspiration qui me donne des possibles que le nécessaire apparaît et s'impose. S'impose comme quelque chose que je ne peux pas rejeter. C'est vraiment la seule chose qui m'est donnée. Et alors, à ce moment-là, j'ai les voies déterminées de l'art. Ces fameuses choses de que saint Thomas dit, et d'Aristote, les voies déterminées de l'art. Je suis déterminé. Et je suis déterminé, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, vous voyez, les deux causes de la détermination, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre à faire. J'ai quand même quelque chose, je sais que je suis inspiré souvent à partir d'une œuvre que je dois faire. C'est bien souvent à partir de là. C'est comme une hypothèse qui m'est faite. Je dois réaliser cette œuvre. Comment la réaliser? Alors, à ce moment-là, l'inspiration joue. Et le retour à l'œuvre, le regard sur l'œuvre, un amour plus grand de l'œuvre, va permettre une actuation plus profonde de l'intellect, une actuation plus profonde de l'intellect actif sur le possible. Mais il faudrait se poser la question du rôle de l'intellect actif dans la connaissance artistique. Oui. Et ce rôle de l'intellect actif dans la connaissance artistique, je crois que c'est là. Alors, ce serait très intéressant pour une connaissance plus profonde de l'intellect actif. Parce qu'on a toujours vu, c'est pas étonnant, hein, on a toujours vu, au point de vue scolastique et au point de vue scolastique décadent, on a toujours vu l'intellect actif du côté de l'abstraction. On a dit, oui, il y a bien une illumination, mais c'est avant tout l'abstraction. Et l'intellect spéculatif, l'intellect actif agit sur le fantasme, pour abstraire du fantasme la forme intelligible. Mais l'intelligence active est au-delà de la distinction du spéculatif et du pratique. Et donc, l'intellect actif agit nécessairement du côté spéculatif, du côté pratique. Et qu'est-ce qu'il a comme action? Alors, c'est là, au contraire, où il y a une espèce de densité. De densité qui se fait du côté du possible pour que ce possible s'actue et apparaisse comme du nécessaire. Alors c'est une connaissance symbolique nécessaire qui m'est donnée et qui est vraiment quelque chose de l'intérieur qui s'impose à moi. Et à partir de là, je suis capable d'orienter mon travail. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre maintenant, une fois qu'on a vu la naissance du nécessaire au niveau artistique à partir du possible. On a essayé de saisir le nécessaire qui apparaît à partir de ce possible. Il faut essayer de comprendre comment ce nécessaire va devenir la norme. Mais devenir cause, hein, au sens très très fort, cause exemplaire. La cause exemplaire est déjà vraie au niveau du possible. Mais vous comprenez très bien que quand les possibles sont multiples, la cause exemplaire n'est pas encore parfaite. Parce que la cause exemplaire implique l'unité. Et donc la cause exemplaire n'est parfaite que là. Donc la cause exemplaire est née directement de l'intelligence pratique. La cause exemplaire exprime l'aspect de la subjectivité transcendantale de l'intelligence qui domine. Et c'est là où je comprends comment je domine mon travail. Il y a des gens qui sont dominés par leur travail, il y a des gens qui dominent leur travail. Tout dépend. Si vous avez une idée, vous dominez votre travail. Si vous n'avez pas d'idée, vous êtes dominé par votre travail. Et là, c'est beaucoup plus fatigant. Parce que quand vous dominez votre travail, ça va, c'est l'intelligence qui domine, qui assume ce qu'il faut faire. Tandis que lorsque vous êtes dominé par le travail, c'est tout à fait différent, vous êtes relatif à. Et alors, étant relatif au travail, ça devient difficile. Votre intelligence risque de crouler à ce moment-là. Et là, ça devient très fatigant. Tandis qu'au contraire, quand vous dominez, quand il y a cette nécessité qui apparaît, alors vous dominez et vous orientez votre travail. Parce qu'on essaiera de voir la fois prochaine comment cette idée oriente, détermine mon travail et est capable de déterminer mon travail. Alors, si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est une chose difficile, vous les poserez, quitte à revenir là-dessus, parce que c'est intéressant à chercher. Je vous donne ça comme une recherche, le passage du possible au nécessaire. Et c'est quand même très intéressant, parce que c'est la seule fois où on voit le possible qui s'actue de l'intérieur. Il n'y a rien de contradictoire, parce que je suis dans l'ordre du vivant. Et du vivant intellectuel. Et par le fait même que je suis dans l'ordre du vivant intellectuel, je suis dans l'ordre d'un vivant parfaitement immanent. Et c'est là où je découvre un devenir parfaitement immanent. Un devenir extrêmement rapide, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que c'est l'analogue à une induction. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez.